qu'il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous.
Mon nom est Francis Parent-Valiquette et vous écoutez le Centro Show.
Mais le plus important, c'est qu'il est bélier.
Aujourd'hui, pour ce long samedi, ce format entrevue un peu plus long avec quelqu'un, je suis tellement content de recevoir Denis Martel. Il y a quelques semaines, je t'ai parlé d'un podcast que j'ai découvert, que je suis tombé en amour avec, qui est un podcast historique du Québec, des histoires contemporaines. Le podcast s'appelle Épilogue. Je t'ai aussi dit que j'étais rentré en contact avec un des deux co-animateurs. Il n'est pas simplement co-animateur, il fait aussi partie de l'idée avec son partenaire Benjamin Tremblay, qui ont mis l'idée ensemble, qui ont présenté ça à Cube, qui ont réussi à se faire produire, mais c'est aussi eux qui ont fait la recherche, qui ont trouvé le contenu, etc. Comme moi-même, j'ai des projets de peut-être faire produire certains balados que je veux produire, que je rêve de produire par une grosse boîte et que je sais qu'il y a beaucoup de podcasteurs dans mon auditoire, ben j'avais envie de demander à Denis c'est quoi son parcours, comment qu'on fait ça, c'est quoi qu'on fait quand on veut faire produire notre balado par une grosse boîte, parce qu'on s'entend qu'au Québec, il n'y en a pas eu tant que ça encore. C'est pas comme, mettons, des écrivains qu'on doit pouvoir trouver plein de littérature sur les façons de se faire publier. C'est quand même un petit peu plus niché, c'est un petit peu plus nouveau que ça soit aussi populaire, que je me suis dit qu'on gagnerait tout et je me suis comme fait un cadeau en même temps, à savoir comment qu'on fait pour faire produire sa balado par Cube Radio. Sur ce, je te présente mon entrevue avec Denis Martel. Bonjour Denis, premièrement, je veux te remercier d'avoir accepté mon invitation sur le Centro Show aujourd'hui. Je vais faire une courte bio. Tu es stratège numérique à ton compte avec plusieurs gros comptes à ton nom, dont Desjardins, Bombardier, Via Rail et Métro, pour ne nommer qu'eux. Dans le fond, ce que j'ai compris, c'est que tu veux vraiment aligner un message d'entreprise pour faire la différence. Donc, beaucoup de communication là-dedans. Tu es prof en marketing numérique au Cégep de Limoilou et au Collège Barthes. Tu es un podcasteur, bien sûr, c'est pour ça que tu es ici. Un de tes podcasts, c'est Les Engagés publics. J'ai écouté quelques épisodes. Dans le fond, je vais le dire dans mes mots parce que je ne veux pas comme bousiller votre affaire, mais c'est une solution créative au chiolage contre la politique du Québec.
Ouais, c'est le fun. C'est bien dit.
C'est vrai qu'on chiole beaucoup au Québec. On a plusieurs qui ne prennent même pas le temps de voter, mais qui prennent bien du temps pour chioler. Donc, j'aime beaucoup cette mission-là qui va te raccrocher. Parce que le cynisme est un cul-de-sac, la politique a besoin d'une voix constructive.
Yes.
Aujourd'hui, on va parler de ton petit dernier, le podcast Épilogue.
Oui.
Avant de te laisser parler de ça, je veux vraiment te remercier pour ce cadeau que tu nous as fait. J'adore l'histoire du Québec. J'ai comme une fascination pour les gens qui se radicalisent. C'est pas que j'embarque là-dedans, là, c'est, je veux pas être mal cité, mais il y a quelque chose de passionnant d'avoir une mission au point de se radicaliser. Ouais. Puis un des intervenants, il dit que la différence entre un héros, comme dans le fond, tous ces radicals-là, s'ils gagnent, ça devient des héros, comme si on pense à Che, mais s'ils se font prendre, c'est des terroristes. Fait que j'aime beaucoup cette ligne-là que vous êtes allé chercher là-dessus. Merci, merci. J'ai vraiment adoré les trois épisodes. J'attends juste le prochain avec impatience.
Jeudi, on va être quoi? On va être rendu le 26. Trois nouveaux épisodes sur 1995. Sur le référendum avec Mario Dumont et Lisa Froula. Évidemment, avec Benjamin Tremblay puis moi, là, mais nos invités, c'est Mario Dumont puis Lisa Froula. Écoute, c'est Régent Tremblay qui dit ça, ce que tu amènes. Puis moi aussi, ça m'avait marqué quand il avait dit ça. Je me souviens pendant l'entrevue, quand c'est rare qu'on a des gens qui ont ce courage-là, surtout aujourd'hui, de dire ça publiquement, ce genre de choses-là, parce que ça peut, après ça, t'être ramené n'importe quel moment, tu sais, puis être sorti du contexte, alors qu'il n'endosse pas du tout la violence, Régent, mais il a quand même effectivement dit ça. Puis quand tu y penses, puis que tu veux qu'on veut être honnête, c'est vrai que des fois, la nuance, elle est mince. Hein, puis l'histoire a été écrite par les vainqueurs, fait que voilà. Pour ce qui est de mon rôle, si je peux me permettre, là, évidemment, les gros comptes que tu as nommés, en réalité, moi, je suis stratège numérique à mon compte. Je travaille avec des agences beaucoup, fait que mes clients, tu sais, je vais travailler avec des cossettes, avec des LG2, Think, avec des Base 132, toutes sortes d'agences qui vont m'amener des fois vers des clients comme Bombardier et tout ça que tu as nommé. J'étais directeur à la planification stratégique chez Cossette là, un an, pratiquement un an aujourd'hui. j'ai quitté pour justement partir à mon compte, mais je travaille encore avec eux. Tout ce que je t'ai nommé là, c'est des clients pour moi. Fait que c'est de même que j'en viens à avoir mes entrées dans des fois des comptes plus qui peuvent sembler plus prestigieux.
J'ai donné un petit peu ma description d'épilogue. Toi, qu'est-ce que c'est, mettons, en quelques phrases épilogue pour toi, pour peut-être les auditeurs qui n'ont pas écouté d'épisode, les mettre en bouche, leur donner le goût d'aller faire play là-dessus?
Épilogue, écoute, c'est né d'une... Moi, je fais des balados avec la gang de Cube depuis quelques temps. Là, on a une couple de... J'ai fait des productions pour des clients, justement, dans un contexte de balado de marque. Puis j'ai travaillé beaucoup avec la gang de Cube, avec qui je m'entends super bien, une gang des gens exceptionnels. J'ai tellement appris avec eux. C'est incroyable. Puis je parlais avec Étienne à un moment donné, puis le producteur, puis je disais, écoute, Tom, ce sera le fun. J'aimerais ça te proposer un projet. Tu me laisserais-tu te déposer quelque chose? Puis il a dit, vas-y, dépose, essaye. Puis j'ai fait un one-pager. Ce que j'ai fait, je suis allé voir mon ami Benjamin Tremblay, puis on a comme fait un peu un mix de ce qu'on était capable de faire les deux. Benjamin Tremblay, qui est de 7 jours sur Terre, qui est très bon pour faire des capsules historiques, et un excellent narrateur, un communicateur hors pair. Moi, j'ai pas ce talent-là. Par contre, en interview, je suis pas pire. T'sais. Je fais des interviews avec les engagés publics beaucoup. Les engagés publics que tu parlais tantôt, qui est mon laboratoire. Là, c'est mon petit balado d'amour, là, celui que je fais depuis au-dessus de 2 ans. C'est là-dedans qu'on fait toutes nos erreurs, qu'on se pète les dents, mais qu'on a aussi plein de choses super cool. Fait que j'ai dit, crème, ce sera le fun. Qu'on refasse, on reprenne des éléments de notre histoire récente où les protagonistes sont encore vivants, qu'on les amène au micro, qu'on fasse redécouvrir ça aux plus jeunes. Moi, j'ai 48 ans, Benjamin, il a 24 ans. C'est des affaires, c'est notre histoire récente, mais des fois, juste assez loin pour que les jeunes ne savent même pas de quoi qu'on parle. Moi, j'ai été impliqué en politique pendant quelques années. Ça me marquait d'entendre les jeunes me parler puis dire « j'ai jamais vécu de référendum ». Ça, c'est comme si c'était inconcevable pour moi. Fait que c'est un peu né de toutes ces réflexions-là. Je me suis dit, crème, on va refaire un balado, on va refaire de quoi pour les jeunes, puis on va mixer nos talents, puis on va l'amener dans un esprit positif. T'sais, l'idée aussi, c'est de détoxifier l'histoire de la politique. T'sais, on est capable de parler avec des Mario Dumont, on est capable de parler à des Pauline Marois, on est capable de parler à des joueurs du moment, mais qui sont rendus juste assez loin maintenant pour dire... Je peux parler tranquille. J'ai plus besoin d'avoir peur de me faire coincer par un journaliste. Ça me permet de sortir de la clip puis de parler à cœur ouvert, parler librement puis de revenir sur le passé.
Vraiment une bonne idée, je vais dire. Je ne sais pas comment le stipuler, mais d'en profiter le temps qu'ils sont encore en vie parce que ces gens-là, ils vont partir un moment donné. Je veux pas, on vieillit. 95, c'est déjà 25 ans.
C'est ça.
Si je t'ai accroché aujourd'hui, en fait, c'est parce que il y a plusieurs podcasteurs qui écoutent mon podcast et je sais que plusieurs d'entre nous, dont moi, je vais m'inclure dans le lot parce que j'ai des projets de balado aussi, peut-être plus grande diffusion des histoires à raconter. Plusieurs ont le rêve soit de se faire produire par Radio-Can ou par Cube. Et comme tu es passé par là, qu'il y a environ zéro documentation, on s'entend que c'est quand même un médium qui est assez récent. Fait que c'est pas comme les livres que tu as 50 histoires de personnes qui ont écrit des livres et comment que c'est arrivé. J'aimerais ça que tu nous parles un peu du parcours. Tu en as déjà un peu parlé que tu étais déjà chez Cube, mais quelqu'un qui a une idée comme ça puis qui serait intéressé à peut-être la faire produire ou la vendre à une grosse boîte comme ça, qu'est-ce que tu peux leur dire ou c'est quoi ton parcours?
Bien, c'est sûr, tu sais, moi, j'ai une expérience, je suis stratège en marketing, mais il y a un gros volet de ce que je fais qui est aussi la stratégie de contenu. Fait que je suis, tu sais, veux pas, le marketing, avec le temps, ça s'est transformé en pertinence. Aujourd'hui, ça fonctionne plus, les messages à sens unique. Tu peux plus juste faire des slogans puis espérer, puis d'envoyer ça à sens unique puis espérer que ça marche. Les gens embarquent plus là-dedans parce que la communication ne fonctionne plus de même. C'est plus une communication à sens unique. Donc, ça nous a obligés avec le temps à se transformer. Il a fallu qu'on passe de comme je disais tantôt, des slogans à sens unique à quelque chose de pertinent. Donc, c'est des échanges, c'est des... faut amener de la valeur. Faut amener quelque chose à l'utilisateur. Sinon, il n'y a pas 30 secondes à t'offrir. Fait que si on veut qu'ils nous offrent du temps, ben, faut leur amener des contenus qui sont intéressants. C'est sûr, j'ai fait mes classes à travers cette recherche-là constante du storytelling, de la mise en récit, tu sais, qui est dans un contexte marketing, dans un contexte publicitaire. Quand le balado est arrivé, pour moi, ça a été... je dis que le balado est arrivé, c'est pas vrai. C'est la deuxième vague, hein, en réalité. Je faisais un balado pour à l'interne quand je travaillais chez Neuron en 2001. Ça s'appelait, puis c'était comme, bon, on avait même un bout de télé, on appelait ça Neuron TV. C'était sur l'intranet, mais tu sais, Neuron, c'est les belles années de Neuron, là, dans le temps de Québécois, où il y avait un bureau, il y avait des bureaux partout dans le monde. Puis on avait cette chance-là à l'interne de pouvoir expérimenter tout ça. Mais là, quand c'est revenu, il y a quelques années, le balado, très fort, justement à cause qu'il y a une soif de contenu, il y a une soif de contenu niché. Ben là, je suis retombé un peu dans ces vieux amours-là. Je me suis rappelé cette réalité-là. Puis j'ai plongé là-dedans. Je ne suis pas le meilleur au point de vue technique. Par contre, j'ai des idées au point de vue des idées, la mise en récit, puis des contenus. J'ai des choses que j'ai envie de dire, des choses que je trouve intéressantes. J'ai des amis autour de moi aussi qui le sont. Donc ça, c'est la base. Hein? Faut avoir de quoi dire. Ensuite, la gang de balado-diffuseurs qu'on est au Québec, ceux qui s'autoproduisent, on en a des belles choses, à dire. Puis j'aimerais ça, c'est pas vraiment spécifique, c'est vraiment ce que je valorise avant toute chose. Les gens qui s'autoproduisent. Moi, je pense qu'il faut en faire. Faut que t'en fasses. Faut pas avoir peur, faut se lancer. Puis ça, on l'a déjà. Une fois que c'est fait, ça ressemble beaucoup à un processus de ce qu'on va voir, par exemple, en cinéma ou les livres ou ce genre de trucs-là. Quand tu as un bon concept, il faut qu'il tienne sur une page, trois paragraphes, un one-pager, on appelle ça le synopsis. Tu t'envoies ça à un producteur, puis inquiétez-vous pas, ces gens-là, ils sont à l'affût, tu sais. Puis quand ils trouvent ils regardent, mais si c'est trop long, ils te liront jamais. Fait que si t'es pas capable de susciter l'attention, c'est pas capable d'attirer l'intérêt en 3-4 paragraphes, là, parce qu'il en reçoit beaucoup. Premier pas, c'est ça, c'est d'attirer l'attention dès le synopsis. Fait que si le synopsis est bon, ben après ça, les discussions s'entendent, ça va nous mener plus loin. Mais tu sais, faut pas voir ça trop glamour non plus. Tu sais, c'est ce qui est le fun, c'est que travailler avec des gens géniaux comme Cube, c'est que ça te donne accès à de la production, ça te donne accès à une gang de professionnels qui justement vont t'accompagner puis vont être 20 fois meilleurs dans ce que toi, tu l'es pas. Tu sais, ils viennent compléter tes faiblesses. J'ai rencontré entre autres une réalisatrice incroyable, là, Anne-Sophie Carpentier, qui m'a tellement appris à travers toute cette démarche-là. C'est incroyable. Puis ça a beaucoup de valeur. Tu sais. C'est pas des projets où on roule sur l'or. Faut que les gens le sachent. Je l'ai dit, on se trouve quand même privilégié d'avoir, de dégager des revenus à travers ça. Mais je te dirais, je sais pas quoi te dire. Il n'y a pas d'autre secret que ça. C'est qu'à partir du moment où le synopsis passe, puis que là, après ça, les premières discussions préliminaires ont un fit, ben, je suis là, après ça, on s'entend sur des aspects contractuels, puis on travaille.
Premièrement, c'est déjà deux bons trucs. D'un, d'avoir de quelque chose à dire ou avoir une bonne histoire. ton truc de résumer en trois paragraphes, je suis tellement comme de ton côté, même côté business, c'est la même chose pour moi, les soumissions. Moi, quand je vois des soumissions de 18 pages, il veut même pas te lire. Tu ne donnes pas le goût de faire affaire avec toi, tu es après l'endormir.
J'ai quitté des jobs à cause que fallait que je rédige des réponses à des appels d'offres gouvernementaux. C'est complètement détestable.
Je ne peux qu'imaginer, mais j'aimerais ça qu'on creuse peut-être sur le côté, justement, j'ai de la misère à faire la différence entre producteur, réalisateur, qui fait quoi là-dedans.
Oui, il y a des zones grises. Hein. Moi, je suis comme travailleur autonome, je touche un peu à tout. Là. Je fais du contenu, j'anime. Je fais un peu de réalisation, je produis aussi, tu sais, à travers tout ça. Parce que moi, ce qui arrive, c'est que quand j'ai pas la ressource, je le fais. Ben, je lis, puis je me commence à le faire, puis j'expérimente, puis je me trompe, je me pète la gueule, je ferai de moi. Puis à un moment donné, j'en fais des pas pires, tu sais. Sinon, t'as des métiers très précis. Le producteur, c'est le responsable que ça arrive. Lui, là, c'est celui, premièrement, qui va s'occuper, il tient les cordons de la bourse, c'est lui qui a le flair pour trouver les idées qui vont fonctionner. C'est lui qui parle avec les exécutifs de l'organisation puis qui fait le pont, justement, avec la gang de producteurs puis les créateurs. Quand il va penser qu'un projet peut être rentabilisé, il va investir dedans. Des fois, c'est son argent. Des fois, c'est l'argent de l'organisation pour laquelle il travaille, mais il y a des enveloppes à gérer. Puis il va dire, bon, ben OK. Il va distribuer l'argent à travers ses différents projets qui lui sont proposés. Avec lesquels il pense que justement qu'il va pouvoir rentabiliser soit en publicité parce qu'ils vont aller chercher du succès ou pour toutes sortes de façons. Puis c'est lui qui va après ça transmettre ça à son équipe dans laquelle tu as souvent un réalisateur, un monteur. Tu sais, c'est des petites équipes, là. Tu peux avoir un technicien, tu peux avoir genre un chef réalisateur avec des sous-réalisateurs. En tout cas, ça va dépendre de la grosseur puis du nombre de projets. Fait que le producteur, à un moment donné, il passe le projet au réalisateur, puis là, le réalisateur, lui, est responsable. Dans mon cas, par exemple, nous, on fait la rédaction de nos. On fait la recherche, on fait je fais la rédaction de mes plans d'entrevue, tout ça. Je fais mes recherches moi-même. J'ai beaucoup de contacts. Là, étant rien été en politique pendant un bon bout de temps. Je sais par où passer pour avoir les invités que je veux. On a quelque chose qui est un peu informe, avec une idée, tu sais, où ce que... Puis là, la réalisatrice, dans notre cas, c'est Anne-Sophie dans ce cas-là, elle a vraiment pris ça, puis elle l'a structuré d'une façon où elle l'a mis en récit avec son expérience. Puis là, je te dis que j'ai beaucoup appris. Moi, c'est pas... Épilogue, si ça avait juste été de nous, ça aurait pas nécessairement été aussi bien ficelé au point de vue de la mise en récit. On aurait plus jasé comme on fait là. Tu sais, on aurait fait un show qui ressemble plus à de la radio, puis on aurait passé à travers ça nos brides d'entrevue, tu sais, pour accompagner notre histoire. Tu sais. Mais là, on est allé dans un autre style. Puis ça, c'est intéressant parce que c'est un style auquel moi, j'avais jamais vraiment touché encore. Là, tu sais, cette qualité-là que tu y trouvais en l'écoutant, là, de production, c'est vraiment grâce à Anne-Sophie qui nous a amené plus loin au point de vue du montage puis justement de cette mise en récit-là. Elle l'a travaillé avec nous. Fait que c'est des équipes au final, là, producteurs plus 3-4 personnes, puis ça ressemble à ça.
Fait que le réalisateur, lui, ficelle l'histoire, dans le fond. Si je comprends bien, producteur, il parle au gros boss, investit l'argent, gère l'argent, donne le go, grosso modo, il met un cadre financier.
C'est lui qui décide quand est-ce que ça sort, et c'est lui qui construit ses horaires, et il est quand même responsable plus de la stratégie de mise en marché, si on veut. Il y a aussi une équipe de mise en marché. Puis le réalisateur, lui, va s'occuper, va être plus responsable du produit créatif. Donc, le producteur est plus proche de la mise en marché, le réalisateur plus proche du produit créatif. Ah oui, le réalisateur aussi, pendant l'enregistrement, va nous guider beaucoup. Il est toujours là pour chaque enregistrement, sauf pour les entrevues, où là, il n'intervient pas parce que tu comprends qu'on est en train d'aller chercher le plus d'authenticité possible, puis là, il ne peut pas commencer. Malgré que des fois, il va dire, « Peux-tu reposer cette question-là, s'il te plaît, sous tel angle? » pour être sûr que la réponse soit en fonction de ce qu'il a le goût d'avoir en lien avec sa vision. Mais sinon, c'est lorsqu'on va faire seulement les voix, là, elle va nous accompagner d'une façon où que des fois même, elle va me faire faire là, du quasiment, pas du mot à mot, mais quasiment là, tu sais. Elle va me dire, peux-tu prendre telle intonation? Puis quand je l'ai pas, là, c'est là, elle me le fait, puis là, whoop, je le fais comme elle, puis là, tu sais. Fait que c'est très guidé. C'est le plus proche que j'ai jamais fait de ma vie d'un travail de comédien parce que d'habitude, tu sais, je fais juste parler de même avec comme je le fais avec toi, là, tu sais, puis c'est Denis que t'entends dans ces enregistrements-là. On est ailleurs, c'est un peu, on raconte une histoire plutôt que simplement jaser autour d'un micro.
Quand tu travailles avec Cube comme ça, c'est sûr, ça te donne une grande visibilité, tu sais, ça l'aide d'être publié par une plateforme, mais y a-tu des contraintes que ça t'a mis?
Non, écoute, c'est simplement des petits éléments de respect pour ce qui est de la mise en marché, là, tu sais, je te ferais pas jouer un extrait d'un épisode à venir, là, tu sais, ou qu'avant eux autres, là, c'est des petites questions d'exclusivité, mais sur le produit créatif, t'as absolument aucun. D'ailleurs, c'est une des choses qui m'a surpris beaucoup. On entendait toutes sortes de choses sur Québécois, tu sais, qu'ils sont très dirigeants, nanana, contrôlants, pas en tout. Écoute, c'est fou. Ça a été facile contractuellement, coup de liberté, ils sont très, très conscients de la nouvelle réalité d'autoproduction. Ils savent très bien que les créateurs aujourd'hui fonctionnent comme ça, là. Ils sont conscients que moi, ben, je suis quelqu'un qui fait de l'autoproduction, puis je veux pouvoir continuer à faire mon autoproduction, puis il n'y a pas eu vraiment de problème là-dessus. L'autre chose, c'est rapidement le producteur, Étienne, ce qu'il me disait, c'est on sait à qui on a affaire, on vous fait confiance. Allez-y, go. Il y a un sujet, on nous a demandé, il y a des thématiques, là, ils nous ont dit faites les sujets que vous voulez, il y a un sujet qu'on aimerait que vous fassiez, parce que ça fit avec nos éléments, mais avec d'autres éléments, mais en même temps, c'est un sujet qu'on voulait faire. Mais ils ont dit traitez-le exactement comme vous avez envie.
En gros, c'est pas mal. Ça serait le fun que vous parliez de ça. Ça nous aiderait.
Ouais, ben c'est à cause d'actualité, en réalité. Là. C'est que c'est basé tout le temps bas de. Tu sais, gars, comme là, 95, là, le référendum, là, le monde va parler de ça. Là, c'est novembre. Fait que ça fait. Il y a un anniversaire. Fait que, tu sais, ce genre d'affaires-là, c'est normal là, que FLQ, FLQ aussi. Tu sais, c'était l'anniversaire de. Fait, c'est logique, en réalité. C'est pas voici un sujet qu'on vous impose. Là, c'est que.
Puis en même temps, je veux dire, pour vous, c'est bon parce que ça crée une espèce de boom aussi.
Un momentum.
Versus si tu sors ça comme un peu n'importe quand. Fait qu'il y a une stratégie derrière.
Exactement.
Je voudrais revenir sur le budget. En fait, quand tu présentes un balado comme ça, est-ce que c'est toi qui as dû comme présenter un budget dans le sens que tu n'es pas arrivé puis dire on aurait besoin d'une enveloppe de X,
non.
Puis lui décide, c'est eux qui vous l'accordent.
Après avoir présenté le synopsis, s'il y a un intérêt, là, on commence les discussions autour de ce que ça coûterait faire ça.
Mais en fait, ma question, c'est un producteur qui s'autoproduit présentement, qui voudrait aller vers une grosse boîte. Est-ce que c'est sa tâche à lui un peu de déterminer ou d'avoir une idée du coût?
Il va finir par devoir, oui. Tu ne présentes pas les coûts en même temps que le synopsis. Pas à mon point de vue, en tout cas, moi, je ne ferais pas ça. rapidement si ton idée plaît. Tu vas en venir à cette discussion-là. Donc, si t'es capable d'avoir une bonne idée de la chose, là, c'est sûr. Ce qui arrive, c'est qu'il faut que tu aies une bonne idée de ce que toi, tu veux. L'autre affaire, c'est quand tu travailles avec un producteur qui a déjà tous ses efforts de production, là, tu n'es plus en autoproduction. Là, tu vas travailler avec une machine qui va te... Eux autres, ils ont déjà leur investissement en ressources. Tu sais, moi, il y a des choses que je ne sais pas, là, que... de ce que ça représente. Je sais qu'ils travaillent fort. Là. Je les vois aller, là, mais... T'sais, j'ai pas eu, moi, à évaluer comment de temps ça allait leur prendre de leur bord. Là.
Toi, c'est vraiment plus la partie comme recherche, interview.
Bon, bon.
Ça représente quand même un certain défi quand on s'auto-produit parce que c'est sûr que, tu sais, comme mettons, tu me dirais, je veux produire ça, j'aurais une idée de globalement maintenant, comme qu'est-ce qui est ma partie.
Produire, c'est phénoménal. Moi, je pense à, tu sais, mes modèles, ceux qui m'ont beaucoup influencé au Québec puis que j'adore, c'est des gars comme Simon Préjean qui est Bredge, qui fait des Ars Moriendi ou ben, les gars de Distorsion. Puis ça, là, c'est une leçon. Tu regardes ces gars-là aller, puis c'est du travail, pis c'est de la foi, puis c'est de la passion. C'est du talent au départ, mais je pense qu'il y a deux fois plus de travail que de talent dans leur affaire. J'espère qu'ils le prendront pas mal. Là. C'est fou le travail que ça a demandé, puis tu vois au final que ça débloque. Mais as-tu vu le travail que ça a demandé pour que ça débloque? Fait que c'est pour ça que je te dis je suis très admiratif face à ça. C'est des gens qui travaillent vraiment par passion. Puis c'est ça, en fait, que j'ai appris d'eux. C'est de dire, écoute, la seule façon de le faire, puis moi, je le fais, regarde, en toute modestie, là, je fais mes petites patentes là, à côté d'eux, là, je me compare pas du tout, là, vraiment pas. Le point est pour dire que mon respect, je pense que j'aime encore plus les autoproductions aujourd'hui. Là, que j'écoute ce qui se passe à audio, je trouve ça incroyable, mais je veux même pas imaginer combien ça coûte. Là. Tu sais, ça n'a rien à voir avec les moyens qu'on a en autoproduction. On fait ça après notre job, on fait ça quand on a 2 minutes, on fait ça en s'achetant du matériel. C'est toi qui se dégage un petit peu de sous.
Puis justement, un autoproducteur, si t'as un conseil à y donner.
Ben, fais-en. Faut que t'en fasses. Puis faut que tu t'écoutes, même si des fois c'est tough. Là. Moi, je m'écoute des fois, je suis comme arc. Un matin, j'ai fait une entrevue là, avec Louis Asselin qui a fait Nos élus à Télé-Québec. Après ça, je m'écoutais, puis j'étais comme ah, mon son est tombé mauvais à côté du sien. Après ça, j'étais comme je suis tombé mauvais moi-même. Tu sais, je suis comme. Puis là, je me dis, faut que j'arrête de faire ça de même, ça, faut que je m'améliore. Fait que c'est ça, cherche à t'améliorer, faut que t'en fasses, faut que t'en écoutes d'autres aussi, faut que tu réseautes. Je pense que la meilleure chose, c'est d'aborder ça avec humilité beaucoup.
Merci, Denis. Si les gens veulent te rejoindre ou si t'as quelque chose à leur dire, bref, la parole est à toi.
J'ai des grosses lunettes noires, si vous me cherchez, vous allez me trouver facilement, Denis Martel. Ma marque de commerce, c'est mes grosses lunettes noires la plupart du temps. C'est avec ça que vous allez me voir si associer les mots stratégie et numérique à ça, puis ça ne devrait pas être tough. Là. J'ai quand même une présence à cause de mes conférences puis ce genre de trucs-là. Donc, je fais de la stratégie, je fais de la création de contenu, je fais de la transformation numérique, des conférences, de la formation. Je donne des cours au cégep dans deux collèges. Puis, écoute, mais merci de m'offrir la chance de me promouvoir, mais c'est ça. Fait que Denis Martel sur Messenger, Denis Martel sur Gmail, Denis Martel, c'est facile.
Puis d'ailleurs, il est vraiment très responsive. Je peux pas le dire en français.
Oh oui, c'est la meilleure façon de me rejoindre, c'est vraiment Messenger. Vous allez avoir une réponse dans la minute.
Clairement, on est rentré en contact par Messenger et ça a été comme vraiment instantané.
Je suis enthousiaste, j'aime ça.
Puis bonne journée.
Salut.
Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.